Alors, je reçois Alain Labonté. Bonjour, Alain.
Bonjour, Hélène.
Alain, que je connais bien puisqu'il est dans le milieu depuis, vous m'avez dit, 42 ans?
Non, je travaille.
Pourtant, vous êtes tellement jeune.
Je suis sur le marché du travail depuis 42 okay. ans, mais je suis dans les communications depuis une vingtaine d'années.
Vous avez même conduit les tracteurs à 6 ans parce que vous êtes né sur une terre, ferme. Une ferme.
Ouais,
wow.
ouais,
on a ça en
ouais.
commun parce que moi aussi, ouais. je suis née sur une ferme. Ouais.
C'est
mon
des
papa était agriculteur.
Oui,
ouais, ouais, absolument. Et puis, Alain, je disais que je vous connaissais depuis quand même quelques années, mm-hmm. Au moins 2 décennies, parce que vous êtes en communication, vous
C'est
gérez
ça.
Une boîte de communication, vous êtes relationniste, et puis ensemble, ben, on « book » entre guillemets des entrevues.
Oui, tout à fait.
Oui, oui, oui.
Je mets les autres en lumière.
Tout à fait. Et vous faites plein de choses, dont l'écriture. Vous
ouais.
avez écrit en collaboration avec Florence Menet, avec Simon Boulris, avec Penelope McQuaid, notamment. Et un jour, vous avez décidé de faire ça tout seul, comme un grand.
J'ai commencé seul.
Ah, oh, vous avez commencé seul?
Oui, il y a 8 ans, j'ai publié
avec
mon premier livre avec Une âme et sa quincaillerie. Donc, ça a été le premier ouvrage
oui, en
2015, que j'ai écrit.
Oui.
oui, c'est ça. Et après, il y a eu 3 collaborations, 4 collaborations même qui ont suivi, dont avec Florence Menet, Penelope McQuaid, Simon Boulris et Denis Nadeau. Parce qu'avec Denis Nadeau, j'ai écrit le livre « Un jour, ma tête a plié les genoux », qui est sorti récemment aussi.
D'accord.
Et là, je suis revenu avec un projet solo, donc j'avais un peu le vertige.
Bien, je comprends.
Et puis c'est la suite d'Une âme et sa quincaillerie.
Oui, j'étais un petit peu confuse parce que moi, j'ai connu ce livre-là un peu sur le tard.
OK.
Je l'ai lu...
Après
ça fait
les
pas
autres.
Si longtemps,
oui.
Une âme et sa quincaillerie, d'où un peu la confusion. Alors, donc, vous nous proposez 3 saisons et un peu de lumière. C'est un beau titre.
Oui,
est-ce
merci.
Que c'est arrivé facilement, ce titre-là?
Moi, je commence toujours par les titres.
Ah oui?
Chacun de mes livres.
Ah, c'est comme ouais, ça que ça commence.
Oui, ça commence comme ça. Et en fait, l'idée est venue que, bon, je mets en lumière Bébé Loup, qui est mon filleul. Et maman...
On ne sait pas que c'est
ouais.
votre filleule.
Ouais.
On peut comprendre qu'il y a un lien
ouais.
familial, affectif, profond avec bébé loup qui devient grand loup.
Ouais.
Mais on ne sait pas. Vous ne nommez pas, vous ne dites pas.
Bébé loup.
Pourquoi?
Et qui devient grand loup. Ben, c'était comme ça. C'était, comment je dirais? C'est quelque chose d'affectueux, c'était quelque chose de tendre. Je voulais rester comme ça.
Okay. Hein,
quelque chose d'enveloppant, une petite bulle comme ça. Donc, il y a bébé loup et il y a maman qui aujourd'hui a 85 ans.
Qui est toujours en vie.
Oui, tout
ouais.
à fait. Donc, c'est sûr que ces deux personnes-là sont venues, en quelque part, m'obliger à faire un équilibre dans ma vie. Parce que je travaillais. Et là, à un moment donné, ben, tu veux être avec ta mère qui vieillit, tu veux être avec bébé loup qui grandit. Donc, la vie t'amène à décélérer. Et moi, qui est un amoureux du silence, donc c'est pour ça que j'ai intitulé 3 saisons, parce que moi, j'étais à l'automne de ma vie. Donc, c'est 3 saisons et un puits de lumière, parce que le puits de lumière, c'est le silence.
Mm-hmm.
Et voilà.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes si attaché au silence, le silence qu'on retrouve très difficilement, de plus en plus. On dirait que les gens veulent mm-hmm. du bruit pour combler quelque chose, fuir quelque chose.
Ouais.
Vous, le silence, vous n'avez pas peur du silence?
Pas du tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je me souviens, quand j'ai commencé l'écriture d'Une âme et sa quincaillerie, j'étais allé à l'île Maurice. J'étais là pendant 23 jours. Et quand je suis retourné à l'aéroport et que le douanier m'a parlé, bla, bla, bla. Et là, j'ai réalisé, au moment où je conversais avec
ouais.
lui, que dans les 23 jours, j'avais parlé environ 10 minutes à quelqu'un.
Ah.
Je réalisais là. Et si on m'avait dit, aimerais-tu rester encore un mois? J'aurais dit oui. J'aime ça. Je vais dans le désert, moi, dans les déserts. Ça
c'est
fait
vrai.
37 ans, je vais dans les déserts.
Vous y arrivez, là?
Oui, oui, oui. Ouais. Je suis allé au Sénégal. Là,
ah
je
oui,
travaillais.
Vous faisiez du télétravail
ouais,
mais... dans le désert.
Je travaillais.
Une photo sur les réseaux sociaux
ouais.
qui est absolument charmant.
Mais moi, j'aime ça. Puis aussi, je suis un contemplatif, moi. Donc,
ouais.
J'aime ça être dans les éléments, dans la nature. Il y a tellement de choses à voir quand on s'arrête. Puis là, ben, j'ai acheté une maison dans le fond d'un cul-de-sac.
Pas de voisin.
Donc, je baigne dans le silence à la journée longue.
Ah oui. Et c'est drôle parce que vous avez choisi un métier, d'abord et avant tout, le métier d'attaché de presse,
ouais.
là où c'est l'effervescence, il y a du bruit. Et bon, il me semble que votre amour du silence va mieux avec votre rôle d'auteur. Est-ce que vous avez besoin des deux?
Ben oui, oui, je crois, dans le sens que je suis quelqu'un qui est très sociable. J'aime l'humain. Je pense que je suis toujours en train de trouver aussi des façons d'être avec l'humain parce que je fais beaucoup de bénévolat, je fais beaucoup de projets pour des organismes.
Oui, vous êtes associé aux impatients,
les impatients, le centre Filou. Bon, il y a d'autres projets que j'ai menés depuis des années. Donc, inévitablement, je me retrouve avec les gens, mais en même temps, me couper des gens, il n'y a aucune difficulté okay. pour moi. Donc,
alors, vous, la pandémie, ça ne vous a pas mis à terre?
Ça ne vous a pas... Je ne le crie pas haut et fort, mais j'ai aimé ça.
Ah oui, jusqu'à ce point-là, le confinement. Oui,
j'ai
ben, ça ne vous a pas dérangé?
Pas du tout. Et même, moi, ce que je trouvais intéressant, ça nous obligeait à faire des voyages intérieurs chacun. Donc,
s'arrêter.
Oui, chose qu'on n'a jamais trop pris le temps de faire. En tout cas, je parle pour moi. Et il y a eu plein de changements dans ma vie, justement, depuis ces trois dernières années-là. Tu sais, j'ai tout vendu à Montréal. J'habite maintenant à la campagne. Bon, là, la pré-retraite. Mm-hmm. Fait qu'il y a plein de choses qui évoluent à l'intérieur de ma vie, mais je sais que ça en découle un peu de la pandémie, justement.
Vous dites que vous avez aimé ça, entre guillemets, j'imagine, parce que dans votre livre, vous parlez aussi des aspects plus sombres de la pandémie, notamment pour les personnes âgées.
Bien sûr. Écoutez, il est clair que quand je dis que je ne l'écris pas haut et fort, c'est que je parle de ma condition à moi.
Oui,
moi,
oui.
Ça a bien été. Mais en même temps, ça a été des moments extrêmement difficiles pour beaucoup de gens, et ça l'est encore, mm-hmm. quand on regarde juste les problèmes de santé mentale qui en découlent. Et aussi dans les maisons de retraite pour personnes âgées, c'était loin d'être rigolo là, ce qui se passait.
Votre mère a été chanceuse.
Très chanceuse.
Ce que vous racontez.
Bon, premièrement, elle vit dans un endroit où il y a 17 résidents. Donc, je trouve que c'est à taille humaine, déjà. Ensuite, les gens à l'intérieur de cette maison-là ont été très, très, très rigoureux sur les mesures sanitaires. N'entraient vraiment pas qui voulait là, même nous, les enfants. Ouais. C'était très rigide mm-hmm. et c'était parfait comme ça aussi. Donc, il n'y a pas personne...
Votre mère n'en a pas souffert?
Non.
Non?
Non, ma mère, comme moi... C'est pas une ennuyeuse. Elle va s'occuper. Elle prie aussi.
Oui, elle fait beaucoup son chapelet.
Recueille, tout ça. Donc, effectivement, ça n'a pas été drôle pour bien des gens. Puis bon, moi, je travaille avec les impatients, comme on disait.
Oui.
Le taux de gens, même dans mon entourage, qui ont des problématiques de santé mentale, et encore aujourd'hui, c'est assez inquiétant. Donc, oui, pour moi, ça a été un beau voyage intérieur, mais pour d'autres, ça a été plus compliqué.
Mm-hmm. Alors, trois saisons et un puits de lumière est destiné à qui? Qu'est-ce que vous aviez en fait envie de faire vivre à votre lecteur ou votre lectrice?
Bien, en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai un public très, très large. J'ai des jeunes de 12-15 ans qui viennent me voir, autant que des gens de 90 ans. Donc, bien, il s'avère qu'à l'intérieur de ce livre-là, moi, je voulais exprimer la transmission à travers le geste. À travers la parole, les gestes et les paroles qu'on a reçus. Aussi, je me sens aussi un peu responsable de pouvoir donner au suivant parce que, quand je parle de mes grands-parents, tout ça, j'ai eu peut-être une vie dans son ensemble qui n'était pas toujours simple, mais j'ai toujours été capable d'en tirer le bon. Et puis moi, je me considère très, très privilégié, même si j'avais une mère qui a des problèmes de santé mentale, des grands-parents dont mon grand-père qui est mort à la maison. J'ai tellement reçu de ces gens-là qu'en même temps, à travers Bébé Loup, j'essaie d'y donner le meilleur de moi-même mm-hmm. aussi. Donc, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde a une mère, tout le monde a connu des enfants dans son entourage, a eu des grands-parents. Tout le monde connaît des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont côtoyé la mort. Donc, il y a beaucoup de thématiques, j'ai l'impression, qui vont parler aux gens.
C'est très touchant. Bien, il y a plein de choses touchantes dans votre livre. Mais ce rapport-là que vous avez eu avec votre grand-père, vous l'imaginez bien avec cet exemple où il vous a donné confiance en vous. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu cet épisode?
Ben en fait, il y a un exemple. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, je vais voir maman où elle habite. Et on discute, puis je dis, je suis en train de rédiger mon prochain livre. Et je réalisais que si je mets dans le top 3 des images qui m'habitent dans la vie, qui me reviennent à chaque semaine, depuis 45 ans, il y a cette image-là de mon grand-père et moi quand je lui coupe les ongles. Puis ma mère qui dit, ben voyons, c'est donc bien drôle. J'ai dit, oui, mais c'est passé. C'est pour ça que je dis, dans la vie, il n'y a pas de petits moments. Il y a des moments qui arrivent au bon moment. C'est tout. Ça peut sembler anodin, couper des ongles, puis on passe à autre chose. T'sais, pour un autre, il ne l'aurait peut-être pas vécu de la même façon que moi. Sauf que quand moi, j'étais jeune, j'avais toujours peur de déplaire ou de blesser quelqu'un. Bon.
Et en là, coupant les ongles de votre grand-père.
Et là, il vient me voir, mon grand-père qui avait 75 à peu près, qui vient me voir un soir, puis il me dit, écoute Alain, j'aimerais ça, parce que là, moi, j'ai des problèmes avec mes yeux, je tremble beaucoup. J'aimerais ça que tu me coupes les ongles. Et puis là, je suis venu anxieux. Je, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, moi, mes grands-pères, j'ai dit, si je te coupe, je te blesse. Non. Il dit, faut pas t'abdiquer. Faut t'essayer.
Faut t'essayer.
Ouais. Donc, c'est là que j'ai commencé à tailler les ongles. Ben, aux 10, 12 jours à peu près. Et un jour est arrivé ce que je craignais. J'ai coupé un petit peu trop proche. Ouais. Et là, je me suis pris la tête entre les deux mains. J'ai laissé tomber le coupon sur la table. J'ai dit, oh, papa. Et mon grand-père, affectueusement, glisse sa main autour de moi puis il me dit, Alain, c'est pas grave. Dans la vie, il y a tellement de choses qui n'arriveront pas comme tu l'aurais souhaité. Mais à chaque fois, il faut que tu prennes une grande respiration puis tu continues. Il y a seuls les gens qui continuent, qui réalisent de grandes choses.
Votre grand-père était sage.
Donc, puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'âge
ça a résonné aussi.
Ben, à l'âge de 9-10 ans, ça me soit resté dans la tête aussi. C'est comme quand, dans la cour, mon grand-père regarde vers le ciel, puis je dis, ben voyons, pépère, qu'est-ce que tu regardes?
Vous l'appeliez papa?
Pépère.
Ah, oh, pépère!
Okay. Pépère!
Je pensais pépère comme dans Petite Vie.
Non, pépère! Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu regardes, pépère? Puis il me dit, sais-tu combien de temps ça prend pour voir une étoile qui brille? Puis là, je fais, ben non, je sais pas. Puis il me dit, ben ça prend le temps que tu la regardes. Ouais. C'est beau, hein?
Ah oui, c'est très,
c'est
très beau.
C'est d'une simplicité. Oui. Mais c'est ça qui était beau. Puis moi, je pense que j'étais très, très sensible, voire éponge. Donc, j'ai eu ce grand privilège-là de côtoyer ces deux personnages-là, mon grand-père et ma grand-mère. Puis avec des leçons de vie, comme je disais
qui tantôt, vous accompagnent.
Qui auraient pu avoir l'air anodines.
Oui.
Mais que moi, elles m'ont marqué au fer rouge.
Mm-hmm.
Et énormément.
Qui vous ont aidé aussi à traverser les épreuves.
Ah, tout à fait. Ouais, tout ouais. À fait.
Parce qu'il y en a eu des épreuves. Il y a de la tristesse, il y a de la tendresse, il y a de l'affection. Mais votre mère, vous disiez qu'elle est bien seule. Ce n'est pas quelqu'un qui s'ennuie.
Non.
Mais elle a eu quand même des épisodes de dépression. Il y en a même eu une en
récemment.
Octobre 2022.
Ouais, ouais.
Comment elle va, votre mère?
Elle va très bien.
Ouais.
Bon, bien entendu, c'était une quatrième dépression sévère qu'elle faisait. Donc, à chaque fois, c'est les électrochocs. Qui...
Je ne savais même pas que ça existait encore,
bien
les
sûr.
Électrochocs.
Bien sûr.
C'est une image tellement, on pense à Alice Robbie.
Oui,
là.
C'est ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que depuis 1970, dans la littérature francophone, il y a très peu de gens qui ont traité des électrochocs. Donc, c'est pour ça que quand j'ai publié Une âme et sa quincaillerie, ou ce livre-là, beaucoup de gens réagissent. Même qu'il y a des médias qui m'appellent pour en parler aujourd'hui. Mais ça a tellement changé. Tu sais, les électrochocs, ça a commencé en 1838 avec deux médecins italiens. Et là, le cerveau te chauffait là, quand il se passait quelque chose avec les électrodes. Mais aujourd'hui, moi...
Tu disais que c'était comme une castration du cerveau.
Ah, c'était... Mais bon, hein, dans la vie, on a tout fait des tests sur des choses hein, pour avoir l'expertise qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose... Bon, excusez-moi le terme, mais qui peut avoir l'air banal. Dans le sens que tu vas dans la salle d'opération, on va avoir un tranquillisant, on va te faire entrer un peu comme dans des convulsions, mais pendant 10 minutes. Tu vas être dans la salle de réveil, tu retournes dans ta chambre.
Oui.
Puis moi, demain, faire une dépression, si on m'offre le choix, je veux des électrochocs au lieu de la médication. Oui. Puis pour ma mère, de toute façon, c'est la seule façon pour elle de revenir à l'état normal. Mm-hmm. La médication ne fonctionne pas sur elle.
Parce que c'est ça, vous en parlez pas avec enthousiasme, là, mais
non.
Quand votre mère a ces traitements-là, reçoit des électrochocs, après vous dites, bon, là, elle va mieux.
Oui, oui.
Elle fonctionne
bien. Entendu,
bien.
Ouais, il y a eu, comme la dernière fois, il y a eu 7 séances d'électrochocs. Donc, ils se sont étalés sur 5-6 semaines. Mais aujourd'hui, Hier, elle était chez moi. Tu sais, on était sur le bord de la rivière, on marchait sur le terrain. Il n'y a jamais personne qui aurait pu deviner qu'il y a quelques mois, ma mère est à l'hôpital.
C'est... Mais est-ce que c'est récurrent? C'est...
Écoutez...
C'est mal, son mal-être?
Ma mère a 85 aujourd'hui. Elle a fait 4 fois des dépressions. Donc, c'est dur de dire...
Vous l'avez vue souvent en dépression?
Ben, les 4 fois, c'est sûr. Ouais.
Depuis petit, là?
J'avais 12 ans la première fois.
La première fois?
Oui, oui. Okay.
Et son lien avec petit...
Bébé loup,
et qui est devenu grand loup, est-ce qu'elle est proche de Bébé loup?
Pas nécessairement, parce qu'ils n'habitent pas dans la même ville, déjà, tu sais. Mais c'est sûr qu'elle connaît de fond en comble, parce que...
Et je me demandais dans votre vie, qui était Bébé loup? C'est quelqu'un qui est membre de votre famille?
Pas de ma famille, c'est le fils d'une amie.
OK, d'accord. Ouais. Mais vous ne le spécifiez pas. C'est dans le livre, c'est pas important.
Non, c'est comme...
On sent l'importance qu'il a dans
votre vie. Mais je ne trouvais pas que c'était important nécessairement de nommer jusque-là. Okay. Je trouvais que Bébé loup, c'était doux, c'était tendre, ça gardait dans une bulle. J'aimais ça.
Et Alain, l'écriture est arrivée comment dans votre vie?
En fait, moi, j'aimais beaucoup le français à l'école, énormément. De fil en aiguille, quand venait le temps de faire des dictées ou des compositions, j'avais toujours des très bonnes notes, tout ça. Puis, par un concours de circonstances, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit « Ah, ce serait le fun d'écrire des chansons. » Mais tu sais, j'avais aucune idée.
Comment faire?
Ouais. Puis tu sais, une chanson, ça a un format, un piétage, des accents toniques, en tout cas, bref. J'avais écrit quelques chansons, puis j'avais envoyé à l'ami. Bon, je garde, quand tu auras une seconde, tu regarderas ça. Et à mon insu, il avait envoyé ces textes-là à Star d'un soir, qui était comme La Voix à l'époque.
L'émission animée par Pierre Lalonde.
Justement. Et un jour, je reçois un appel. Bonjour, Alain Labonté, vous faites l'émission. Là, je me dis, voyons, c'est quoi ça? Puis moi, j'avais aucune espèce d'idée de quoi qu'on parlait. Là.
Ah oui.
Puis moi, j'ai dit, il n'y a pas juste un Alain Labonté dans la vie. C'est peut-être mieux de faire des recherches parce qu'il va être déçu. Puis là, ils ont dit, attendez une seconde. Fait que là, ils reviennent, la dame revient au téléphone. Elle dit, écoutez, tel titre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et là, je fais, ben oui. Donc, elle dit, c'est vous. Ben, elle dit, faites l'émission genre le 28 mars, je sais pas quoi. Donc, ça a commencé comme ça. Fait que je me suis retrouvé avec le temps écrit pour Bruno Pelletier, Marc Hervieux, Annie Villeneuve, Martine Sinclair, un paquet de monde. Et un jour,
Et non les moindres?
Ben oui, c'est comme ça, a donné comme ça. Puis un jour, j'ai décidé de me commettre
en
essayant d'écrire un livre.
Oui, et ça a fonctionné.
Ben c'est l'8e en 8 ans. Donc.
Et il y a Claudia Larochelle. Quel est votre lien avec elle? Parce que ça fait 2 fois là, qu'elle signe la préface. Ouais. Elle est en admiration. Elle vous aime beaucoup. Il y a une relation profonde entre vous deux qui s'est établie.
Ouais.
Et puis, elle compare aussi votre style avec celui de Christian Bobin. Rien de moi.
C'est assez touchant. Ouais. Ben Claudia, c'est devenue une bonne amie avec le temps. Bien entendu, elle avait signé la préface d'une âme et sa quincaillerie parce qu'on s'est connus dans les marches de l'oratoire Saint-Joseph.
Et elle a failli.
Oui, elle a failli tomber et je l'ai attrapée.
C'est comme ça.
Oui, c'est vrai.
Ça a été un coup de foudre amical.
Et voilà. Et ensuite, quand j'ai écrit 3 saisons et puis Lumière avec l'arrivée de Bébé Loup, elle a des enfants, tout ça. Puis j'ai dit, écoute, c'est peut-être quelque chose qui se fait pas habituellement. Mais moi, j'aime pas faire les choses parce qu'il faut qu'elles soient faites comme les gens les font. Tu sais, moi, je me dis, bon, chacun son truc. Puis moi, j'avais dit à Claudia, j'ai dit, maintenant que tu as des enfants, maintenant que tu as des parents vieillissants, j'ai dit, j'aimerais ça te demander si tu réécrirais la préface après en avoir fait la lecture, bien entendu. Ben elle a dit, absolument. Puis, fait que c'est ça qui était intéressant aussi de voir ce regard-là de mère.
Tu sais. Mais c'est flatteur aussi de se faire demander d'écrire la préface d'un livre de quelqu'un qu'on aime et qu'on respecte.
J'imagine, j'espère.
Oui. Et puis, Alain, qu'est-ce qui se passe là, pour vous? Ce livre-là a été lancé, bien reçu. Est-ce que vous en faites beaucoup, beaucoup la promotion? Vous avez fait une tournée déjà assez importante.
J'ai fait 7 lancements déjà consécutifs. Ça a vraiment été agréable.
Est-ce que Bébé loup et votre mère l'ont lu?
Ben oui.
Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Ils sont très touchés.
Oui. J'imagine, c'est les 2 personnages principaux.
Oui.
Est-ce qu'ils vont se retrouver dans votre prochain projet?
Non, le prochain projet... Ben moi, mon matériau, c'est toujours mon vécu. Hein? Et le prochain projet, ça va être une histoire d'une personne que j'ai rencontrée à Montréal, qui est devenue un grand ami. Et je parle de ça au début des années 90. Et c'était l'arrivée du sida à l'époque. Mm-hmm. Et un jour, ben, il y a eu comme des malaises, des choses comme ça. Il est allé consulter. Puis la journée qu'il avait sa réponse, j'avais dit que moi, je serais à Montréal, chez moi, si jamais il souhaitait que je sois là, parler ou peu importe. Et à un moment donné, ça frappait à la porte. Et quand j'ai ouvert, il s'est effondré devant moi. Donc, il venait d'apprendre qu'il était séropositif. Ah, oui. Et l'histoire, en fait, ça va être justement l'accompagnement jusqu'à la toute fin.
Ah oui.
Et comme je disais au début, Hélène, moi, je commence avec les titres. C'est un peu comme, tu sais, quand tu es avec des gens qui sont en perte d'autonomie, ça peut être nos parents hein, qui ont l'Alzheimer ou peu importe, mm-hmm. mais à un moment donné, il y a toujours une succession de deuils. Hein. Tu sais, on se dit, ah ben ça, je pourrais plus faire ça avec. Ou, bon. Donc, le titre, ça va être « Les jours où tu me manques le plus sont ceux où je te vois ».
Ah, c'est beau! J'ai déjà des frissons! Et puis, la sortie de ce livre-là, est-ce que vous avez déjà une date, une année? Pas de pression.
Mais il est commencé. Là, je m'en vais un mois en vacances.
Ah oui, donc, bien mérité.
Je veux plonger dedans, mais j'aimerais honnêtement, d'ici 2 ans, okay. Que ce soit...
En attendant, est-ce que la promotion est terminée pour 3 saisons et un peu de lumière?
Bien, pour le moment, parce que là, je pars en vacances. Okay. Vendredi, je m'en vais en Grèce. Oh. Donc, ça va faire du bien.
Bonnes vacances.
Au retour, il y aura la journée du livre québécois. Donc, sûrement que je ferai des activités, quelque chose.
Mais Alain, ça a été un plaisir de vous recevoir en studio.
Merci.
Et puis, il y a notre ami Mathieu, là, qui n'en manque pas une. Et il nous offre Bruno Pelletier, « J'ai posé des pierres ».
Oui!
C'est une chanson écrite par Alain Labonté.
Que j'ai écrite pour son fils.
Ah, on va l'écouter avec beaucoup d'attention. Et je rappelle le titre de votre plus récent ouvrage, 3 saisons et un puits de lumière, Alain Labonté. C'est publié chez Édito. Merci Alain.
Merci Hélène.